en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs. Droit international et droit interne sont longtemps demeurés étrangers l'un à l'autre. D'abord qualifié de droit des gens, le droit international liait les seules personnes de droit international, États et organisations internationales. Il ne pénétrait guère dans la sphère nationale, à l'intérieur duquel l'État exercer seul sa souveraineté. Montesquieu l'explique au début de l'Esprit des lois en distinguant le droit des gens, qui regarde toutes les sociétés et régit les rapports qu'elles ont entre elles, le droit politique, qui, à l'intérieur de chaque société, définit les rapports du souverain avec ses sujets, et le droit civil, qui s'applique aux rapports des citoyens entre eux. Ces différentes branches du droit sont séparées et largement hermétiques les unes aux autres. Soulignant les liens entre le droit et l'État, Montesquieu affirme qu'une société ne fait point de loi pour une autre société. Vous-même, Monsieur le Président, vous avez écrit, pendant longtemps, le droit international a seulement connu une société internationale composée d'États souverains. Dans ce contexte de séparation entre le droit international et le droit interne, pour le juge national, le droit international était sinon entièrement absent, en tout cas fort éloigné des dossiers à examiner au quotidien. Dans un ordre juridique construit autour de la souveraineté de l'État et de la primauté de la loi, il avait peu d'interférences avec les litiges portés devant le juge national et son autorité en droit interne demeurait même incertaine. Les sujets qu'il abordait relevaient en vérité d'un univers qui n'était pas celui du juge national. Avec la multiplication des traités, les deux mondes du droit international et du juge national ont commencé à se rapprocher. Aux classiques traités de paix ou de commerce, se sont ajoutées des conventions portant sur des sujets de plus en plus variés. Les chiffres mêmes sont révélateurs. Le nombre de traités conclus par la France était en moyenne de 4 par an entre 1881 et 1918. Il est passé à 14 entre 1919 et 1939, 80 entre 1945 et 1959, 145 de 1960 à 1969, 175 à partir de 1980, pour se stabiliser aujourd'hui à environ 200 par an. Dans le même temps, le cadre constitutionnel s'est modifié pour conforter l'autorité des traités en droit interne. La construction européenne s'est construite par de multiples normes qui produisent des effets dans les domaines les plus nombreux. Des juridictions internationales se sont affirmées, avec en Europe une autorité particulière. Dans un univers mondialisé, le droit s'est affranchi des frontières et détaché de l'État. La globalisation économique, culturelle, technique, devant laquelle nous nous trouvons, s'est emparée et s'empare du droit, provoque en lui des phénomènes nouveaux de brassage, d'interconnexion, de transversalité, a écrit le professeur Jean-Bernard Aubi. Dans ce contexte, le juge français s'est trouvé de plus en plus fréquemment confronté au droit international. Il aurait pu en être déconcerté. S'exprimant comme organe de l'État, rendant la justice au nom du peuple français, ne risquait-il pas de perdre ses repères, voire son identité, dans un univers ouvert au droit international et par là nécessairement marqué par les cours internationales ? La réalité s'est toutefois avérée différente. Loin d'être affaibli par la présence accrue de normes internationales, le juge français y a trouvé, comme les autres juges nationaux dans les différents États, un champ élargi d'intervention. Ses contacts plus étroits avec le droit international ont stimulé sa vivacité. Une riche jurisprudence s'est développée au travers de laquelle il a tout à la fois redéfini la hiérarchie des normes et enrichi son office. La redéfinition de la hiérarchie des normes est la première traduction des liens plus étroits entre le juge national et le droit international. Avant même que le juge précise leur portée, les textes constitutionnels successifs ont marqué la place croissante du droit international en droit interne. Conformément à la tradition qui séparait, selon une conception dite dualiste, droit international et droit interne, la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 se bornait à prévoir que le président de la République négocie et ratifie les traités et que certains de ceux-ci, les traités de paix, de commerce, ceux qui engagent les finances de l'État et ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ou aux droits de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux chambres. La Constitution était peu disserte sur le droit international. Le passage de ce système dualiste au monisme, dans lequel droit international et droit interne relèvent d'un seul et même ensemble, résulte, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de la Constitution du 27 octobre 1946. Son préambule affirme que la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Et ce préambule proclame, dans l'esprit de la Charte des Nations Unies, qui venait d'être adoptée à San Francisco le 26 juin 1945, que la France consent, sous réserve de réciprocité, aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. L'article 26 de la Constitution inscrit de manière plus précise le droit français dans la conception moniste en indiquant que les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi. La Constitution du 4 octobre 1958 a poursuivi dans cette voie en se référant au préambule de 1946 et elle s'y est même engagée plus avant, puisque son article 55 prévoit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. On est passé de force de loi à autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, dit l'article 55, pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Ces dispositions constitutionnelles régissent l'insertion du droit international en droit interne. Ratification ou approbation, puis publication suffisent, sans qu'il soit besoin, comme au Royaume-Uni ou en Italie, pays qui sont demeurés fidèles au dualisme, d'une loi pour introduire les traités dans l'ordre juridique interne. Il est toutefois des traités ou des stipulations de traités qui n'entendent créer d'obligations qu'entre les États et qui demeurent en conséquence dépourvus d'effets directs en droit interne. Il revient dans chaque cas au juge d'apprécier si un effet direct s'attache ou non à une clause d'un accord international, eu égard, nous dit un arrêt du Conseil d'État du 11 avril 2012, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes. Si l'article 55 de la Constitution affirme, vous le voyez clairement, la supériorité des traités sur les lois, il ne détermine pas les modalités de contrôle et de mise en œuvre de cette hiérarchie. De la sorte, il laisse une grande marge au juge. Aussi est-ce la jurisprudence qui a progressivement assuré, d'un côté, la pleine supériorité des traités sur les lois, tout en consacrant, d'un autre côté, dans l'ordre juridique interne, la suprématie de la Constitution. Le juge a tout d'abord pleinement reconnu la supériorité des traités sur les lois. Nul doute que l'article 55 de la Constitution implique que la ratification et la publication d'un traité font obstacle à ce qu'une loi antérieure, incompatible avec le nouveau traité, cesse de s'appliquer. Une telle conséquence est d'autant plus logique que l'article 53 de la Constitution prévoit que les traités ou accords qui modifient les dispositions de nature législative ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. La loi qui autorise ainsi la ratification ou l'approbation emporte l'abrogation des dispositions législatives antérieures contraires au nouveau traité. Mais beaucoup plus délicate était la question d'une loi postérieure à un traité qui se trouverait en contradiction avec les stipulations de ce traité. Dans une telle hypothèse, celle de la loi nouvelle, plus récente que le traité, le juge, et dans l'affirmative, quel juge peut-il écarter l'application de la loi nouvelle ? Pour le Conseil constitutionnel, une telle mission n'entre pas dans son rôle de juge de la conformité des lois à la Constitution. Saisi pour la première fois par 60 députés de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse que le Parlement venait d'adopter juste après la révision constitutionnelle qui avait permis à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 15 janvier 1975, jugé que cette loi, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, ne contredisait aucune norme de valeur constitutionnelle, mais il a refusé de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance du droit international, en particulier du droit à la vie proclamé par la Convention européenne des droits de l'homme. Il explique qu'une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la Constitution. Sa jurisprudence est demeurée constante sur ce point. L'introduction, par la révision du 23 juillet 2008, de la question prioritaire de constitutionnalité, lui a donné l'occasion de réaffirmer la distinction entre le contrôle de la conformité des lois à la Constitution, qui incombe au Conseil constitutionnel, et le contrôle de leur compatibilité avec les engagements internationaux ou européens de la France, qui incombe aux juridictions administratives et judiciaires. L'abstention du Conseil constitutionnel de contrôler la conformité des lois au traité était une invitation pour les juges ordinaires, juges judiciaires, juges administratifs, à intervenir pour donner une portée effective à la règle posée par l'article 55 de la Constitution. Dans une décision du 3 décembre 1986, le Conseil constitutionnel les incite de plus fort en indiquant qu'il appartient aux divers organes de l'État de veiller à l'application des conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives. Appliquant lui-même cette directive qu'il donne à tous, il vérifie, lorsqu'il intervient non pas comme juge constitutionnel, mais comme juge électoral, la compatibilité des lois, même plus récentes, aux traités internationaux. Dans ce cadre, la Cour de cassation, raisonnant en termes de conflit de normes, s'est engagée dans la voie d'un contrôle par le juge judiciaire de la conformité des lois au traité dès sa décision du 24 mai 1975, rendue quelques semaines après la décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975, arrêt bien connu de la Cour de cassation, administration des douanes contre Société des cafés Jacques Vabre. La question était plus délicate pour le juge administratif. Juge de l'exécutif, il n'était pas évident pour lui d'affranchir le gouvernement de sa première responsabilité, qui est bien d'assurer l'application des lois, premier devoir du pouvoir exécutif, en jugeant que certaines lois, parce qu'elles méconnaissent les traités, ne doivent pas être appliquées et que le gouvernement est de la sorte non seulement affranchi de l'obligation de les appliquer, mais investi de l'obligation inverse, de laisser inappliquer les lois contraires aux traités internationaux. Mais la place croissante du droit international, en particulier dans l'espace européen, la cohérence juridique, les jurisprudences concordantes sur ce point de toutes les cours constitutionnelles et juridictions suprêmes européennes ont conduit le Conseil d'État à franchir le pas par sa décision Nicolo du 20 octobre 1989. La pleine supériorité des traités sur les lois est depuis lors reconnue et contrôlée par l'ensemble des juridictions judiciaires et administratives. Au-delà de la hiérarchie des normes, le rôle du juge par rapport à la loi s'est trouvé modifié en profondeur. Le juge, qui ne pouvait, selon la conception légicentriste héritée de la Révolution française, qu'appliquer la loi, s'est vu reconnaître la compétence de s'assurer de sa validité au regard du droit international et le pouvoir, en cas de contrariété avec le droit international, de paralyser l'application de la loi. Est ainsi apparu, selon un terme qui n'est peut-être pas du meilleur français, mais qui est très expressif, le contrôle dit de conventionnalité, qui a transformé en profondeur, au-delà de la hiérarchie des normes, les rapports du juge et de la loi. Seules des exigences d'ordre public peuvent, dans quelques cas exceptionnels, conduire à ce qu'un traité ne fasse pas obstacle à l'application de la loi qui lui serait contraire. Après l'adoption de la loi du 17 mai 2013 relative au mariage entre personnes de même sexe, la Cour de cassation a ainsi jugé qu'une convention franco-marocaine ne pouvait, sans méconnaître l'ordre public français, faire obstacle au mariage entre un Français et un Marocain. Si la pleine supériorité des traités sur les lois s'est ainsi trouvée reconnue, la suprématie de la Constitution dans l'ordre juridique interne a, de son côté, été affirmée. Supérieur aux lois, le droit international demeure en tout cas dans l'ordre juridique interne dans une position subordonnée vis-à-vis de la Constitution. À quelques années d'intervalle, le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, à la charnière du XXe et du XXIe siècle, l'ont affirmé en des termes très voisins. Cette position est partagée par les différentes cours constitutionnelles et juridictions suprêmes européennes. La Cour suprême du Royaume-Uni fait prévaloir les principes constitutionnels britanniques sur le droit international et européen. Elle l'a affirmé très nettement dans une décision du 22 janvier 2014. Particulièrement nette est la jurisprudence de la Cour allemande de Karlsruhe, qui place au sommet de l'ordre juridique les droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale. Elle vient de le rappeler en écartant la possibilité d'exécuter un mandat d'arrêt européen au nom de droits attachés à l'identité constitutionnelle de l'Allemagne par une décision du 15 décembre 2015. Deux sphères se distinguent. Celle du droit international, dans laquelle un État ne saurait se délier de ses engagements en se prévalant de sa propre constitution. Celle du droit interne, dont la constitution est la clé de voûte. Certes, l'évolution du droit international entraîne des modifications de la Constitution. La France a une très riche expérience dans ce domaine, puisque notre Constitution a été révisée pour pouvoir appliquer pleinement l'accord de Schengen, pour ratifier les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Lisbonne, pour adopter le mandat d'arrêt européen, pour adhérer à la Cour pénale internationale. Une révision avait été adoptée pour autoriser la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe, mais le rejet de ce traité par le référendum du 29 mai 2005 a rendu cette révision sans objet. S'il intervient régulièrement pour autoriser ainsi les avancées du droit européen et du droit international, le pouvoir constituant demeure néanmoins le maître d'accepter ou non ces modifications de la Constitution. En témoigne de façon particulièrement nette l'impossibilité pour la France, en l'absence de révision constitutionnelle qui l'autoriserait, de ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur les langues régionales et minoritaires. La contrariété de cette Convention avec la Constitution a été relevée tant par le Conseil d'État que par le Conseil constitutionnel. L'obstacle ne pourrait être levé que par une révision constitutionnelle. Plusieurs fois proposée, une telle révision n'a, pour l'instant en tout cas, pas abouti et la France ne peut donc pas ratifier cette convention. Une nouvelle hiérarchie des normes, vous le voyez, a été définie. Cette hiérarchie à laquelle l'ensemble des juridictions françaises, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d'État, ont apporté leur contribution est partagée par l'ensemble des pays européens. Elle consacre la suprématie de la Constitution dans l'ordre juridique interne, ainsi que la pleine supériorité des traités sur les lois. En même temps qu'il définissait cette hiérarchie et qu'il renouvelait ses rapports avec la loi, le juge a trouvé dans le droit international une source d'enrichissement de son office. Longtemps, en effet, le juge national à regarder le droit international dans les rares cas où il avait à en connaître, comme apportant des éléments de fait qu'il pouvait prendre en compte comme tels, mais sans les inclure dans son analyse juridique ni les intégrer à son contrôle. Une familiarité croissante avec le droit international a progressivement conduit à lui donner toute sa place dans les interventions du juge national, dont l'office s'est trouvé considérablement enrichi. Le juge national est devenu familier du droit international. Cette familiarité lui a également permis de prendre conscience des marges que lui ouvre la diversité du droit international. Le juge national, familier du droit international. Cette familiarité a été vite acquise. Dès l'affirmation par la Constitution du 27 octobre 1946, nous l'avons vu, de l'introduction directe du droit international en droit interne, l'office du juge administratif a commencé à évoluer, le Conseil d'État incluant la référence au traité pour apprécier tant la légalité des actes administratifs que la responsabilité de la puissance publique. par une décision rendue quelques années après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946, le 30 mai 1952, narrée Madame Kirkwood, le Conseil d'État juge pour la première fois que la méconnaissance d'un traité international peut être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif dont les requérants demandaient l'annulation. Il s'agissait en l'espèce d'un décret d'extradition. La voie ainsi ouverte est depuis fréquemment empruntée pour confronter une décision administrative au droit international, singulièrement au droit européen. Elle est d'autant plus courante que depuis l'arrêt Niccolo, la loi ne vient plus faire écran entre le traité et l'acte administratif contesté. Après le contentieux de la légalité, le contentieux de la responsabilité. Alignant les règles applicables au traité sur celles qu'il avait dégagées pour les lois, le Conseil d'État a ouvert, par une décision du 30 mars 1966, Compagnie Générale d'Énergie Radioélectrique, la voie à une responsabilité sans faute de l'État en cas de préjudice grave et anormal résultant de l'incorporation d'une convention internationale dans l'ordre juridique interne. Cette jurisprudence, inaugurée en 1966, n'est pas d'application fréquente. On ne voit depuis lors que quelques rares cas où la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée du fait d'un traité international. Mais elle joue néanmoins, et notamment aujourd'hui, dans quelques hypothèses peut-être trop fréquentes, où certaines ambassades étrangères à Paris adoptent des comportements peu recommandables. Ainsi, un salarié d'une ambassade qui se heurte pour obtenir le paiement de sommes qui lui sont dues et dont le juge prud'homal a constaté qu'elle lui était due, qui se heurte à un refus de son État et à l'immunité d'exécution dont bénéficient, en vertu du droit international, les représentations diplomatiques, peut se retourner vers l'État français en mettant en cause la responsabilité sans faute de l'État pour appliquer le droit international qui ne permet pas de poursuivre en France les représentations diplomatiques étrangères, même lorsqu'elles ne s'acquittent pas d'une obligation aussi évidente que le paiement de sommes dues à leurs salariés, notamment ceux qui exécutent des tâches très modestes de nettoyage des locaux de l'ambassade. Avec la reconnaissance de la pleine supériorité des traités sur les lois, le juge a été conduit à étendre son intervention sur les points qui déterminent l'introduction des conventions internationales dans l'ordre juridique interne. Longtemps qualifié d'acte de gouvernement, insusceptible de recours, dont le juge vérifiait seulement l'existence matérielle, mais sans pouvoir s'interroger sur leur régularité, la ratification ou l'approbation des traités sont désormais soumises aux juges chargés d'appliquer le traité qu'elles ont fait pénétrer dans l'ordre juridique interne. Il revient en particulier au juge de s'assurer que, lorsqu'elle est nécessaire, l'autorisation du Parlement a bien été recueillie. Une irrégularité sur ce point peut même être invoquée par voie d'exception. Parce qu'il était regardé comme le seul interprète autorisé des traités conclus par la France, le ministre des Affaires étrangères était, en vertu d'une jurisprudence séculaire, saisi par le juge administratif comme par le juge judiciaire en cas de difficulté rencontrée pour comprendre le sens d'un accord international. Le Conseil d'État, comme la Cour de cassation, ont mis fin à ces renvois préjudiciels au ministre en décidant qu'il appartenait au juge administratif comme au juge judiciaire d'interpréter eux-mêmes les traités internationaux comme ils interprètent toutes les normes qu'ils ont à appliquer. Une telle évolution s'imposait au demeurant pour satisfaire sur ce point aux exigences du procès équitable formulées par la Cour européenne des droits de l'homme. Seule la question de savoir si la condition de réciprocité était satisfaite a continué pendant un temps de faire l'objet d'un renvoi au ministre des Affaires étrangères. Mais cette solution, elle aussi condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, a été abandonnée. Au vu des échanges contradictoires et notamment des observations présentées par le ministre des Affaires étrangères, le juge détermine désormais lui-même si la condition de réciprocité est remplie. Encore la jurisprudence a-t-elle précisé que cette condition de réciprocité n'avait pas à jouer dans le cas des traités multilatéraux qui visent à garantir les droits fondamentaux. Dans sa décision du 22 janvier 1999 relative au traité qui institue la Cour pénale internationale, le Conseil constitutionnel indique que le préambule de la Constitution conduit à écarter la condition de réciprocité dans le cas des traités conclus en vue de favoriser la paix et la sécurité du monde et d'assurer le respect des principes généraux du droit international. Les caractéristiques propres du droit de l'Union européenne, comme de la Convention européenne des droits de l'homme, font également obstacle à ce que la condition de réciprocité puisse être invoquée dans leur cadre. La validité des traités eux-mêmes ne peut en revanche être discutée devant le juge ordinaire. Seul le Conseil constitutionnel a qualité pour vérifier la conformité d'un traité à la Constitution. Il ne peut le faire dans le cadre défini par l'article 54 de la Constitution qu'avant la ratification ou l'approbation. Et la question prioritaire de constitutionnalité n'a pas ouvert de contrôle a posteriori du Conseil constitutionnel sur ce point. Dans l'interprétation des traités, le juge national retrouve toutefois une marge dont il lui arrive de faire usage avec audace pour assurer la conformité du traité aux règles de valeur constitutionnelle. Par sa décision Koné du 3 juillet 1996, le Conseil d'État, après avoir qualifié de principe fondamental reconnu par les lois de la République, donc de principe de valeur constitutionnelle, l'obligation de refuser une extradition demandée dans un but politique, interprète ainsi, non sans hardiesse et même presque en contrariété avec le texte même du traité, la Convention franco-malienne d'extradition. Il l'interprète comme n'ayant pas entendu déroger à ce principe fondamental. Ainsi que l'écrivent les auteurs des grands arrêts de la jurisprudence administrative, la démarche consistant à interpréter une convention internationale à la lumière des principes constitutionnels repose sur l'idée qu'une convention internationale doit normalement se conformer à de tels principes. La place accrue du droit international conduit le juge, judiciaire comme administratif, à faire application non seulement du droit international public, mais aussi du droit international privé. Tel est le cas notamment pour les questions qui touchent aux droits des personnes ou aux droits des contrats. Pour apprécier la légalité d'un refus de visa opposé à une personne, visa d'entrée en France, opposé à une personne qui se prévaut de la qualité de conjoint de Français, le Conseil d'État s'interroge ainsi sur la portée d'un jugement étranger de divorce, pour savoir si cette personne est ou non divorcée d'un Français. Un contrat conclu à l'étranger et qui n'est en aucune façon régi par le droit français ne relève pas du juge administratif. Le tribunal des conflits a jugé que les intérêts du commerce international justifient l'adoption de clauses compromissoires. Mais il a précisé que le juge administratif avait compétence pour contrôler la conformité des sentences arbitrales rendues en application d'une telle clause compromissoire aux règles impératives du droit public français relatives à l'occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique et applicables aux marchés publics, aux contrats de partenariat et aux contrats de délégation de services publics. Sur ce dernier point, le débat n'est toutefois pas clos devant le juge national, puisque si le Conseil d'État applique la jurisprudence du tribunal des conflits, la Cour de cassation s'en est, pour sa part, écartée. Plus familier du droit international dans ses diverses branches, le juge national constate la diversité de ce droit et trouve des marges dans cette diversité. Le droit international, en effet, ne forme pas un bloc monolithique. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé du droit international comme s'il était un. Mais ce n'est pas tout à fait la réalité. La diversité même du droit international ouvre au juge national des marges pour combiner et articuler ces différentes composantes. D'une part, à côté des traités et conventions, le droit international comprend d'autres normes de référence. D'autre part, le droit européen se distingue et se distingue de plus en plus du droit international. Enfin, il n'est pas exclu que des contradictions puissent apparaître entre les stipulations de différents traités. Tout d'abord, diversité des normes du droit international. S'il est constitué principalement de traités négociés, signés, puis ratifiés ou approuvés par les États, le droit international connaît, comme le droit national, d'autres normes plus incertaines, plus souples, dont le juge national a aussi à connaître. Tel est le cas en particulier de principes non écrits, de déclarations adoptées par les États ou les organisations internationales sans prendre la forme de traités juridiquement contraignants, enfin de la coutume internationale. Au-delà des traités, le droit international comprend des principes non écrits, qualifiés par la Cour internationale de justice de normes impératives de droit international général, ou en latin de jus cogens. Ce droit recouvre des règles comme l'interdiction de la torture, de l'esclavage, la prohibition de la discrimination raciale et du génocide, le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et de l'égalité des peuples. Son caractère indéterminé a conduit la France à ne pas ratifier la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, qui affirme le respect de ces principes généraux, même si la France, les gouvernements successifs ont déclaré appliquer les principes de la Convention de Vienne. Le Conseil constitutionnel s'est lui-même référé à ces principes non écrits, notamment au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et à plusieurs reprises, depuis sa décision du 9 avril 1992, au principe pacta sunt servanda. Sans avoir l'autorité contraignante des traités, des textes internationaux de caractère déclaratif sont revêtus d'une forte valeur symbolique. Tel est le cas au premier chef de la Déclaration universelle des droits de l'homme, approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 lors de sa réunion à Paris, au Palais de Chaillot, et largement inspirée par le président Cassin. Entre dans cette catégorie l'acte final de la conférence d'Helsinki de 1975 et l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération signée à Paris le 21 novembre 1990. Avant d'être incorporé au traité de Lisbonne et de recevoir ainsi la même valeur juridique que le traité, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne était elle aussi un simple texte déclaratif. Même s'ils ne s'appliquent pas directement, les principes ainsi proclamés ne peuvent être ignorés du juge national. La coutume internationale est plus présente encore. Longtemps réservée à son égard, le juge national en fait désormais application. Le Conseil d'État l'a affirmé dans une décision Aquaron du 6 juin 1997 qui concernait l'imposition en France de la pension de retraite servie à un ancien greffier de la Cour internationale de justice. De même, la décision Madame Salé du 14 octobre 2001 fonde l'immunité d'exécution des États sur les règles coutumières du droit public international. La jurisprudence précise toutefois que l'article 55 de la Constitution reconnaît que la supériorité que l'article 55 reconnaît au traité sur les lois ne s'étend pas à la coutume internationale. La coutume ne s'impose donc qu'en l'absence de loi contraire, mais une loi pourrait écarter la coutume internationale. Le droit européen, pour sa part, se distingue de plus en plus de l'ensemble des traités, pour se situer en vérité dans une sorte de lisière intermédiaire entre le droit interne et le droit international. Tel est d'abord le cas du droit de l'Union européenne. Touchant à de multiples sujets, il est d'autant plus présent qu'au traité, il ajoute un droit dérivé, règlements et directives, qui sont adoptés par les institutions de l'Union et qui s'imposent dans les États membres sans autre formalité que celle de leur publication au journal officiel de l'Union. Les juridictions de l'Union, notamment le Tribunal de l'Union et la Cour de justice de l'Union européenne, forment un véritable ordre de juridiction qui assure une interprétation uniforme du droit de l'Union, contrôle le droit dérivé et dialogue de manière régulière au travers de nombreuses questions préjudicielles avec toutes les juridictions nationales. Le droit de l'Union forme un véritable ordre juridique solidement charpenté. À partir de la révision du 25 juin 1992, préalable à la ratification du traité de Maastricht, l'Union européenne est entrée dans la Constitution française. Le titre 15 de la Constitution, intitulé de l'Union européenne, lui est consacré et son article 88.1 définit, je trouve très bien, la nature particulière de l'Union en indiquant que l'Union est constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences. Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ces dispositions pour reconnaître une obligation constitutionnelle de transposition des directives. Il juge que le constituant a consacré l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international. Le Conseil d'État emploie des mots presque identiques en reconnaissant l'existence d'un ordre juridique intégré de l'Union européenne et en précisant que le juge national est juge de droit commun de son application. Ainsi, le juge du référé liberté inclut dans son office le respect des libertés fondamentales que l'ordre juridique de l'Union attache au statut de citoyen de l'Union. Et il prend, le juge du référé liberté, les mesures nécessaires pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale qu'une autorité administrative aurait portée aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. La même reconnaissance de l'ordre juridique de l'Union se retrouve dans la jouissance du tribunal des conflits, qui a adapté le mécanisme interne des questions préjudicielles entre les deux ordres de juridiction, judiciaire et administrative, en affirmant que chacun des ordres dispose d'une plénitude de juridiction pour appliquer le droit de l'Union, en saisissant si besoin la Cour de justice, mais sans jamais avoir à interroger l'autre ordre de juridiction lorsque le droit de l'Union européenne est en cause. Les principes ainsi dégagés par le tribunal des conflits ont été appliqués tant par le Conseil d'État que par la Cour de cassation. Aussi, les particularités du droit de l'Union sont-elles affirmées sur de nombreuses questions. Lorsque des dispositions législatives empiètent sur le domaine réglementaire et méconnaissent le droit de l'Union, le gouvernement est tenu de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 37 de la Constitution pour les modifier ou les abroger par décret afin de mettre un terme à la violation de ce droit. Une loi de validation ne sera avoir pour effet ou pour objet de soustraire au contrôle du juge des actes administratifs contraires aux droits de l'Union. Juge de l'urgence, le juge des référés s'abstient en principe d'exercer un contrôle de conventionnalité des lois, mais il peut écarter une loi qui contreviendrait de manière manifeste aux droits de l'Union. Alors que la responsabilité de l'État, du fait des décisions de justice, ne peut être recherchée lorsqu'est en cause une décision définitive, il en va différemment dans le cas où un arrêt, même émanant d'une Cour suprême, aurait méconnu le droit de l'Union. Avec un moindre degré d'intégration, la Convention européenne des droits de l'homme, appliquée avec dynamisme par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, comme, dit-elle, un instrument constitutionnel de l'ordre juridique européen, imprègne de plus en plus le droit des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Les lois nationales sont confrontées aux exigences de la Convention. Le droit processuel s'adapte au principe du procès équitable. Les juridictions nationales se prononcent au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. En cours de ratification, le protocole numéro 16 facilitera le dialogue entre cette Cour et les juridictions suprêmes nationales qui pourront la saisir de questions relatives à l'interprétation de la Convention. Les deux cours, de Strasbourg et de Luxembourg, entretiennent un dialogue que la perspective d'une adhésion de l'Union stimule encore. Avec les juges nationaux, elle contribue à la formation du droit européen. Outre la place spécifique du droit européen, le droit international peut enfin laisser apparaître des contradictions entre différents traités. Certes, les États sont supposés avoir un comportement rationnel qui leur évite en principe de souscrire à des engagements incohérents entre eux. Mais le développement même du droit international s'accompagne inévitablement de risques accrus de stipulations difficiles à concilier entre elles. Un traité bilatéral peut se trouver en délicatesse avec les exigences d'une convention multilatérale. Le droit des Nations Unies et celui de l'Union européenne ne sont pas nécessairement concordants. Les conventions conclues dans le cadre de l'Organisation internationale du travail reposent sur des principes qui diffèrent parfois de ceux du droit européen. Le droit dérivé de l'Union européenne soulève de temps à autre des questions au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour le juge, la situation est d'autant plus délicate que le droit international n'établit pas de hiérarchie entre les traités et ne donne pas de mode d'emploi pour résoudre les éventuels conflits entre eux. Le Conseil d'État s'est trouvé confronté à une telle interrogation dans une affaire où il était soutenu que l'accord entre la France et la Russie sur l'indemnisation des porteurs de titres d'emprunt russes avait introduit une discrimination prohibée par la Convention européenne des droits de l'homme en réservant les droits à réparation aux seuls Français. Éclairé par la riche contribution demandée comme amicus curiae au président Gilbert Guillaume, le Conseil d'État a indiqué qu'il appartient au juge national de chercher à concilier les traités, au besoin en les interprétant au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public. Dans l'hypothèse certainement très exceptionnel, où un tel effort de conciliation demeurerait vain, il reviendrait au juge, conformément à la nature du droit international, d'appliquer le traité sur le terrain duquel l'État a entendu se placer, quitte à engager, le cas échéant, sa responsabilité internationale. Le Conseil d'État précise toutefois que ces règles de conciliation ne s'appliquent pas lorsqu'est en cause l'ordre juridique intégré que constitue l'Union européenne. Dans un univers où les échanges se multiplient, en même temps que les frontières s'estompent, le juge français rencontre, interprète, applique de plus en plus le droit international. De nouveaux horizons se sont ouverts pour lui, qui, loin de limiter ou d'aliéner son pouvoir régulateur, lui ont au contraire dessiné des frontières plus larges, source de créativité et d'autorité. La place du droit international a en particulier enclenché un mouvement de recomposition de la hiérarchie des normes qui a modifié les rapports du juge national avec la loi et dont le dernier développement a été, pour mieux asseoir la supériorité en droit interne de la Constitution, l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité. Les questions rencontrées se renouvellent sans cesse. À côté du droit international, le droit comparé affirme sa nécessité et retrouve une vigueur qui s'était quelque peu estompée. Le droit lui-même se détache de la territorialité pour produire ses effets au-delà des États. Le droit de l'Internet, celui de l'environnement ou le droit du sport sont à cet égard particulièrement significatifs de normes qui dépassent les États-nations. Mais les échanges et la fiscalité, la régulation, certains aspects du droit civil, la prévention des risques majeurs, la répression des infractions les plus graves sont aussi concernés. Aussi, le juge doit-il, comme les autres institutions et comme tous les citoyens, réfléchir à son rôle dans un monde global. La manière dont le juge français s'est accoutumé à davantage rencontrer le droit international permet d'aborder ces interrogations de manière positive et avec de grands espoirs, y compris pour la force de notre droit et pour l'autorité des juridictions nationales. Le mouvement qui s'est engagé dans la seconde moitié du XXe siècle et qui se poursuit aujourd'hui montre que le juge français a saisi les opportunités que les vastes espaces ouverts par le droit international lui offrent pour mieux inscrire son action dans l'horizon universaliste qui répond à ses valeurs profondes et à ses traditions les plus fécondes.
Je vous remercie beaucoup de cet exposé particulièrement fouillé et complet, en même temps que clair, qui dégageait à la fois les conséquences de le développement du droit international sur la hiérarchie des normes et sur leur contenu. Et je vais maintenant donner la parole à ceux de nos confrères qui souhaiteraient vous poser des questions. Et tout d'abord, M. Delvelvé.
Merci, M. le Président. J'ai peur d'être long, mais je sais que vous m'arrêterez.
Je ne manquerai pas.
Si vous y arrivez. Monsieur le Président, nous avons entendu un admirable exposé sur les rapports entre juges français et droit international. Et j'envie les étudiants de Sciences Po qui ont un tel maître, comme j'envie les candidats à l'agrégation qui sont passés devant vous lorsque nous étions ensemble dans le jury du concours d'agrégation de droit public. Les observations que je vais faire ne sont pas des observations dirigées contre votre exposé, mais des observations dirigées contre les relations, l'état actuel des relations entre le droit français et le droit international, les juridictions françaises et le droit international. Nous sommes en pleine schizophrénie. Bon, je vais laisser de côté les questions se rapportant, par exemple, à la coutume internationale que vous avez rangée au niveau de la loi, alors que tous les rapports internationaux ont été régis bien avant les traités sur la coutume internationale. Pensez au statut des traités internationaux avant la Convention de Vienne, au statut de la mer, avant la convention de Montego Bay. Et vous jugez la coutume comme simplement d'ordre législatif. Je n'insisterai pas non plus sur la jurisprudence relative au contrôle, non pas simplement de l'interprétation des conventions internationales par le juge français, mais sur le contrôle de la condition de réciprocité, qui me paraît particulièrement inadmissible, même si la Cour européenne l'a dit. Car comment un juge peut-il s'immiscer dans l'appréciation de rapports qui sont des rapports politiques d'État à État? C'est une question qui ne peut pas être tranchée par le juge, ou alors, c'est complètement hypocrite, il s'en remet purement et simplement à l'avis du ministère des Affaires étrangères qui est versé au dossier. Tout cela est secondaire. Mais la schizophrénie me paraît beaucoup plus importante à deux niveaux. Ce n'est pas une leçon de partir, de sous-partir, rassurez-vous, Monsieur le Président. S'agissant du contrôle de la constitutionnalité des traités par le juge administratif et du contrôle de la conventionnalité des lois par le juge constitutionnel. Contrôle de la constitutionnalité des traités par le juge administratif, vous l'avez dit, c'est exact, je n'ai rien à reprendre. Vous refusez, le Conseil d'État refuse, il l'a dit. Mais vous le faites quand même, et vous l'avez dit aussi, et vous avez manifesté une certaine gêne d'ailleurs, lorsque vous avez parlé de l'arrêt Conné. Le Conseil d'État appréciant l'application, non pas la conventionnalité, non pas la constitutionnalité du traité, pardon, mais appréciant l'application de la Convention sur l'extradition au regard d'un principe dont vous avez dit qu'il était de valeur constitutionnelle. Très bien, vous vous en tirez très bien. Mais enfin, quand même, pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de contrôle de la constitutionnalité des traités par le juge administratif? Venons-en maintenant au contrôle de la conventionnalité des lois par le Conseil constitutionnel. Et là, vous avez très bien, vous ne pouvez pas faire autrement, rappeler la jurisprudence du 15 janvier 1975, toujours en vigueur, monsieur le conseiller constitutionnel, jusqu'à nouvel ordre. Mais là encore, schizophrénie, et vous l'avez dit, on n'applique pas l'article 55, mais on applique l'article 88.1. Alors je sais bien, c'est un ordre juridique particulier. Vous avez parfaitement exposé la manière dont l'article 88.1 est rédigé et dont le Conseil constitutionnel a développé sa jurisprudence sur le contrôle de la transposition par le législateur des directives européennes. Très bien. Mais enfin quand même, il y a un double jugement. Dans un cas, on ne contrôle pas, dans l'autre, on contrôle. Et puis quand on ne contrôle pas, on renvoie tout au juge administratif, au juge judiciaire. Et c'est là qu'il y a quelque chose de paradoxal. Parce que, en réalité, dans bien des cas, et on peut penser à la Convention européenne, il y a une rencontre entre le contenu du droit de la Convention européenne et le contenu des droits et libertés reconnus à valeur constitutionnelle. Et le Conseil constitutionnel rattrape par le contrôle de la constitutionnalité ce qu'il ne peut pas faire par le contrôle de la conventionnalité. Mais finalement, ça revient au même résultat, et le Conseil constitutionnel se trouve doublé, soit par les juridictions ordinaires, administratives ou judiciaires, soit par la Cour européenne, qui va de temps en temps dire le contraire de ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Alors, Monsieur le Président et ami, je ne conteste pas le contenu de votre exposé tel que vous l'avez présenté. Ce que je conteste, c'est le droit positif tel qu'il résulte de votre exposé. Nous sommes, je le répète, en pleine schizophrénie. C'était mon premier mot, c'est le dernier, et c'est ma question. Comment remédier à cette schizophrénie?
Bien, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas s'il s'agit du dialogue de la doctrine et de la jurisprudence ou d'une opération de psychiatrie, mais je vous donne ma parole.
Merci, Monsieur le Professeur, de ces riches et stimulantes observations. Peut-être un tout petit mot d'abord sur la question de réciprocité que vous avez mentionnée, même si elle était un peu en dehors de la schizophrénie. D'abord, pour dire, je crois qu'il ne faut pas surestimer estimer l'importance de cette question qui est tout de même très rarement invoquée devant le juge, qui n'a pratiquement pas donné lieu d'ailleurs à des applications depuis que le principe a été posé. Je crois que sur ce point, même si je comprends les réactions que peut avoir, dire comment le juge peut-il se prononcer sur l'application de la condition de réciprocité, c'est simplement l'idée que le juge, il est éclairé par un débat contradictoire. Il y a des parties devant lui, parfois l'État, et souvent l'État pour le juge administratif, et ce que les uns et les autres vont dire va lui permettre de se faire une idée raisonnable de la réalité des choses. Comparaison peut-être très éloignée, ça me rappelle un peu aujourd'hui les débats qu'on a sur les notes blanches dans le cadre des assignations à résidence. Le juge se prononce au vu des notes blanches comme élément du dossier discuté devant lui. Il se prononcera, le cas échéant, et il l'a très peu fait dans les 20 dernières années, sur la condition de réciprocité, au vu des éléments fournis notamment, mais pas exclusivement, par le ministère des Affaires étrangères. Mais bon, ce n'est pas le point essentiel. J'en viens à la question psychanalytique ou psychiatrique de la schizophrénie. Alors, je crois qu'il y a une réelle complexité et il y a un besoin d'articulation. Moi, je dirais plutôt que la jurisprudence, dont j'ai rappelé les principales rubriques, elle s'est construite progressivement pour répondre de manière ordonnée à une complexité réelle qui pouvait donner lieu à des affrontements. Effectivement, affrontements entre la Constitution et les traités, entre les lois nationales et les traités, entre les cours nationales et les cours européennes. Et le danger, c'était, sinon la schizophrénie, en tout cas, un certain chaos juridique. Il pourrait y avoir, dans un univers complexe dans lequel nous nous trouvons, où le droit international et les cours internationales jouent un rôle important à l'égard du droit que le juge national doit appliquer, il pourrait y avoir des contradictions, sources de désordre, d'insécurité juridique et de perte complète de tous les repères. Et il a fallu articuler les ordres juridiques, l'ordre européen, l'ordre international, à proprement parler, et l'ordre national, les différentes cours constitutionnelles et suprêmes, dans cet univers complexe. J'observe, monsieur le professeur, que les réponses données par la France sont tout à fait identiques à celles qui ont été données par toutes les cours suprêmes et cours constitutionnelles des pays européens. La jurisprudence française, des juridictions françaises, est tout à fait en harmonie avec notamment les jurisprudences britanniques ou allemandes sur les deux points. Supériorité des traités sur les lois, suprématie de la Constitution dans l'ordre juridique interne. Alors, sur le premier point que vous avez mentionné, contrôle de conformité des traités à la Constitution, là, dans l'ordre juridique français, la Constitution donne bien mission au Conseil constitutionnel d'assurer cette tâche. C'est son rôle. Les autres juridictions n'ont pas à le faire. Mais là aussi, comme en combinant toujours les normes, l'interprétation donne la réponse. Et au fond, l'arrêt connaît, ce n'est que la variante internationale de l'arrêt que vous connaissez mieux que moi, Dame Lamotte de 1950, où le Conseil d'État interprète une loi avec beaucoup d'audace au regard des principes généraux du droit. Et pour dire qu'une loi qui dit aucun recours administratif ou judiciaire veut dire bien sûr aucun recours, sauf le recours pour excès de pouvoir, parce que le juge ne peut pas être réputé s'écarter du principe général qui consacre le recours pour excès de pouvoir, c'est une audace qui est équivalente à celle de l'arrêt Connet. Quant au contrôle de conventionnalité des lois, non par le Conseil constitutionnel, mais par les juges ordinaires, peut-être que l'histoire aurait pu s'écrire différemment. Peut-être. Mais elle a commencé à s'écrire, elle a trouvé sa logique, les juges judiciaires puis administratifs se sont pleinement inscrits dans cette logique de contrôle de conformité des lois aux traités internationaux, et le Conseil constitutionnel continue de l'exclure de son office. À mes yeux, d'ailleurs, c'est une manière aussi de valoriser la Constitution. Il applique la norme suprême, la Constitution, et uniquement la Constitution. Il ne met pas les traités au même niveau que la Constitution. Donc, je crois qu'il y a une logique, et que c'est peut-être pour éviter la schizophrénie que les juges ont dû construire ces jurisprudences quelque peu subtiles. Je terminerai en me référant à une image que j'ai trouvée particulièrement éclairante en écoutant le discours de rentrée que le président de la Cour fédérale allemande, le président Voskuhle, a prononcé devant la Cour européenne des droits de l'homme, où il expliquait que dans notre univers juridique européen, on ne pouvait plus parler de pyramide, comme naguère de pyramide de Kelsen, mais on devait comparer le droit, et l'image je trouvais très juste, à un mobile de caldeir dont les différents éléments trouvent un équilibre presque miraculeux dans un mouvement incessant qui les fait s'appuyer les uns sur les autres et permet de trouver un équilibre dans un mouvement incertain, mais finalement réussi.
En d'autres termes, nous résolvons les problèmes psychiatriques à travers le miracle. Je vous remercie beaucoup. Et je passe maintenant la parole à Monsieur Lévite.
Merci, Monsieur le Président, pour cet exposé passionnant, lumineux. J'ai bien compris que, à travers toute l'Union européenne, aujourd'hui, deux principes étaient communs à tous nos 28 pays, la pleine supériorité de la loi et la suprématie de la Constitution dans l'ordre juridique interne. Mais qu'en est-il au-delà de l'Union européenne et dans les rapports entre l'Union européenne et des grands pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde? Est-ce qu'on a là aussi une sorte de mobile de caldeir global qui s'esquisse ou est-ce qu'on est au contraire dans une construction inachevée? Merci.
Alors, je crois que c'est tout à fait exact que autant en Europe, il y a un phénomène de concordance et de cohérence qui vient notamment de l'application des deux ensembles communs que sont le droit de l'Union et le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Autant à l'échelle internationale, il est mondial, il est beaucoup plus difficile d'arriver à une telle construction. Et un droit comme le droit américain est certainement très très ouvert aux observations du droit international. D'ailleurs, la Cour suprême américaine elle-même se réfère de temps en temps dans ses arrêts à des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle les prend comme un élément d'argumentation. Mais elle fait incontestablement primer, bien sûr, la Constitution américaine, mais même la loi américaine. Et là, je ne crois pas qu'on ait un tel degré d'intégration à l'échelle internationale du droit international par rapport au droit interne dans des pays en plus qui n'ont aucune règle constitutionnelle qui donne une telle base à la suprématie du droit international sur la loi, comme l'ont fait pour la France les constitutions de 46 puis de 58. Comme l'ensemble du système européen, pour les pays européens, il est certain que ces règles générales sont peu présentes en dehors d'Europe et que cet ordre juridique européen est aujourd'hui, je crois, dans l'espace mondial, lui, assez spécifique.
Je vous remercie. Madame Delmas-Marty.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Bernard Stine, pour nous avoir présenté cet exposé que j'ai trouvé fascinant parce que vous êtes parti de quelque chose de très simple, finalement. Il y avait le droit interne, le droit international, une hiérarchie qui s'instaure. Et puis, vous nous avez mené progressivement à ce que vous venez de symboliser par le mobile de caldeir, c'est-à-dire une extrême complexité qui veut dire à la fois que le principe de hiérarchie n'est pas parfaitement respecté mais qui passe plutôt à l'idée d'interaction plutôt que d'hiérarchie. Il y a de la verticalité, mais il y a aussi de l'horizontalité. Quand vous faites allusion à la Cour suprême des États-Unis, faisant référence à la Convention européenne des droits de l'homme, il n'y a plus d'hiérarchie du tout. C'est le dialogue des juges, c'est quelque chose d'horizontal. Donc vous nous avez mené progressivement à comprendre justement cette extrême complexité. Alors, vous l'avez montré à travers la diversité du droit international, puisqu'on dit, vous disiez au début droit international, et puis ensuite vous avez dit, oui, mais attention, c'est plus compliqué que cela. Il y a des degrés d'intégration plus ou moins forts. Le droit de l'Union européenne est très intégré, le droit de la Convention européenne est un peu moins intégré, et le reste encore moins. Et puis vous avez parlé de droit dur, mais aussi vous avez parlé de textes déclaratifs, donc de droit mou. Vous avez parlé de textes imprécis, donc de droit flou. Vous auriez pu aussi parler du droit doux quand il n'est pas sanctionné. Et vous avez introduit les marges, les contradictions. Ce qui fait que la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on peut encore penser en termes monisme ou dualisme? Est-ce qu'il ne faut pas introduire quelque chose comme un pluralisme qui serait ou ne serait pas ordonné? Mais est-ce qu'il n'y a pas à reconsidérer la distinction binaire, en quelque sorte, monisme ou dualisme?
Je crois, madame le professeur, que la meilleure réponse, vous l'avez vous-même donnée il y a déjà quelques années, quand vous avez utilisé l'expression très, très lumineuse de pluralisme ordonné, qui m'inspire très, très souvent. Dans les repères, il y a le mobile de Calder et le pluralisme ordonné du professeur Mireille Delsmas-Marty. Je crois que ça permet de bien comprendre notre univers juridique aujourd'hui. Alors, dans ce contexte, y a-t-il encore place pour monisme ou dualisme? Disons qu'il y a tout de même, alors, dans le droit positif, une véritable différence qui continue d'exister dans les pays comme la France, pour lequel le droit international, dès lors qu'un traité est ratifié et publié, produit des effets dans l'ordre juridique interne, et les pays dans lesquels ce n'est pas le cas. Et on le voit quand même nettement aujourd'hui au Royaume-Uni. Il a fallu attendre que le gouvernement de Tony Blair adopte une loi pour faire entrer la Convention européenne des droits de l'homme dans le droit britannique, pour que la Convention, ratifiée pourtant dès les premiers jours par les Britanniques, produisent vraiment des effets dans le droit britannique. Et aujourd'hui, il y a des polémiques au Royaume-Uni. Ne faut-il pas abroger cette loi ou la modifier et la remplacer par une loi purement nationale? Et si le Parlement britannique faisait le choix d'abroger la loi nécessaire dans le système britannique pour que la Convention produise des effets en droit interne, la Convention continuerait de lier le Royaume-Uni dans l'ordre international, mais ne produirait plus aucun effet dans l'ordre juridique interne. Donc, il me semble tout de même que, au moins de ce point de vue-là, la distinction a une signification, même si c'est vrai qu'elle ne touche plus à l'essentiel. Elle ne touche plus à l'essentiel. Je crois que l'essentiel, c'est davantage les échanges entre les univers juridiques, les interactions, les écoutes réciproques. Donc c'est une distinction, je pense, qui a des conséquences réelles, qui est même encore opératoire sur certains aspects, mais qui n'est pas au cœur des problématiques globales.
Je vous remercie, Monsieur Bruno Cotte.
Merci. Merci, Monsieur le Président. Ce ne sont pas des questions que je souhaite poser, mais je voudrais formuler deux brèves observations. La première n'a aucun caractère schizophrénique et elle consiste à féliciter et à remercier Bernard Stiern. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu concevoir que, comme il y a quelques mois, Alain Duhamel et François Dorcival, cette communication soit effectuée en sonate ou en duo par un juge judiciaire et un juge administratif. Mais en réalité, ce n'est vraiment pas la peine, car les propos que vient de tenir Bernard Stiern, juge administratif par excellence, auraient tout aussi bien pu être tenus par un juge judiciaire. J'espère seulement qu'ils auraient été aussi bien tenus. Et je pense que dans la période agitée que nous vivons actuellement, où l'on pourrait avoir tendance à opposer l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, il y a dans les propos de Bernard Stiern, un très bel exemple de l'unité de la démarche judiciaire sur les questions essentielles, que cette démarche soit effectuée par un juge administratif ou qu'elle soit effectuée par un juge judiciaire. Et c'est en cela que je voulais le remercier, indépendamment des félicitations qui s'imposent. Ma seconde observation, elle est d'ordre de sociologie judiciaire, de sociologie de comptoir, hein, car je ne suis pas expérimenté en ce domaine. Mais je voudrais simplement appeler l'attention de notre compagnie sur le bouleversement qu'a représenté au cours de ces 40 dernières années, en tout cas dans le monde judiciaire, cette nouvelle forme de contrôle qui était demandée aux juges. Pour les gens de ma génération, c'était une démarche nouvelle, totalement nouvelle, et certains se sont montrés terriblement rétifs jusqu'il y a encore très peu de temps. Je garde le souvenir de délibérer à la chambre criminelle de la Cour de cassation où le mot « contrôle de la conventionnalité », pardonnez-moi cette expression, mais donnait des boutons à certains magistrats dont l'expérience était pourtant extrêmement poussée. En revanche, pour les magistrats entrés dans la profession depuis, j'allais dire, une vingtaine d'années ou 25 ou 30 ans, tout cela est d'un naturel parfait. Cela va de soi. Et ayant quitté la Cour il y a 9 ans, je peux dire qu'il n'y avait, je pense, aucun pourvoi en cassation produit devant la chambre criminelle qui n'articulait pas un moyen pris, notamment de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, changement complet de perception, changement de travail aussi. Merci. Des observations seulement.
Souhaitez-vous ajouter quelque chose sur ce, point ?
Je remercie beaucoup le président Bruno Cotte de ses remarques et c'est très vrai, je trouve, sur les deux points. Je m'associe aussi à ces observations. Il y a vraiment sur ces sujets une très grande concordance entre juge judiciaire et juge administratif, et c'est certain que les hésitations, les réticences que le président Cotte a relevées de collègues qui avaient été formés à une autre école pour admettre la pleine supériorité des traités sur les lois, elles ont existé au Conseil d'État comme à la Cour de cassation. Et aujourd'hui, on voit bien que nous sommes dans un univers profondément différent, même si, en réalité, en 1989, l'arrêt Niccolo, tout en marquant une très profonde évolution de jurisprudence, paraissait déjà presque s'imposer, compte tenu de l'évolution des dix années précédentes. Mais c'est vraiment dans ces années 70-80 que le changement s'est progressivement produit, mais je crois que les témoignages du président Cotte, nous les avons tous un petit peu en tête aussi au Palais Royal comme au Palais de Justice.
Je vous remercie. Monsieur le Chancelier.
Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je salue le remarquable exposé que nous venons d'entendre, notamment par sa clarté et sa précision. J'aimerais poser une question qui touche l'ordre juridique intégré de l'Union européenne et qui a revêtu une certaine importance au moment d'une période d'élaboration de l'ordre européen, de l'ordre juridique européen, peut-être moins maintenant, mais justement, c'est l'objet de ma question, c'est de savoir si la question est importante ou pas. Il s'agit de la hiérarchie parallèle des normes au niveau réglementaire entre le droit interne et le droit communautaire, ou le droit de l'Union européenne. Alors, dans le droit interne, nous avons la Constitution, et puis il y a un article 34 qui délimite le domaine de la loi, et puis il y a toutes les normes réglementaires inférieures, mais qui, elles, sont bien classifiées, n'est-ce pas ? Les décrets de l'article 37 ne sont pas de simples décrets en Conseil d'État. Les décrets en Conseil d'État sont supérieurs aux autres décrets, etc. Qu'en est-il dans l'ordre européen ? On peut penser que tous les règlements d'application directe qui sont arrêtés par le Conseil des ministres et dans toute la forme améliorée maintenant, faisant intervenir le Parlement, se situent au niveau des lois. Mais ce faisant, l'organe d'exécution de l'Union européenne, la Commission, a un pouvoir réglementaire. Alors, pendant une grande partie de la vie de l'Union européenne, ce pouvoir réglementaire a fait question.
Et il a fait question à une époque où les procédures n'étaient peut-être pas tout à fait au point, mais surtout à une époque où les experts des différents pays considéraient qu'ils avaient, eux, chacun, la vérité dans des domaines techniques précis, et qu'il n'appartenait pas à la Commission de préciser les choses dans les domaines précis. Ce pouvoir autonome d'application directe des règlements de la Commission, qui ne sont pas entourés des mêmes garanties de procédure que les règlements du Conseil, ont été longtemps incorporés directement au droit communautaire, au droit de l'Union européenne, avec la même valeur que les grands règlements du Conseil. Et donc, cette question, probablement depuis le traité de Lisbonne, et puis même depuis l'évolution de la Commission elle-même, qui a cessé de vouloir émettre un système réglementaire tout à fait autonome, donc la question peut-être ne se présente plus. Mais je pense tout de même qu'elle doit se présenter une fois de temps en temps, notamment parce que l'Union européenne s'est dotée d'un système de l'article 34 et 37 de la Constitution, n'est-ce pas ? Il y a des règlements de la Commission qui peuvent modifier des règlements du Conseil. Alors, sous quel contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, évidemment ? Des États, non, aucun. Est-ce que vous considérez, Monsieur le Président, que le système actuel est satisfaisant ? Est-ce qu'il y a un équilibre entre les hiérarchies parallèles au niveau des pouvoirs réglementaires, ils ont beau être intégrés, ils existent tout de même tous les deux. Et est-ce que le mobile de Calder, il ne lui manque pas un mobile supplémentaire qui ajouterait un équilibre plus satisfaisant à cette hiérarchie des normes ?
Oui, merci, monsieur le chancelier, de ces remarques, de cette question. C'est vrai que le traité constitutionnel avait tenté une clarification, puisqu'il avait lancé l'idée de lois européennes, et il s'inspirait un petit peu du système français, les lois et les règlements. Comme le traité constitutionnel n'est pas entré en vigueur, on est demeuré, avec le traité de Lisbonne, dans la terminologie classique, uniquement les règlements et les directives. Le petit flou qui peut exister entre les conditions d'intervention de l'un ou de l'autre, un règlement ou une directive. Alors, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la règle d'adoption, et là c'est là qu'il y a une évolution importante, c'est le Conseil plus le Parlement. Et il y a donc une double clé, Conseil et Parlement européen, pour l'adoption des règlements comme des directives. Le pouvoir de la Commission est un pouvoir qui peut être prévu par les règlements pour prendre des mesures d'exécution, d'application des règlements, qui est tout de même un pouvoir, lui, très très dérivé, assez technique et assez second, en tout cas dans l'ordre juridique interne. Je crois qu'on peut dire que nous sommes peu confrontés aux mesures que la Commission prend au titre de son pouvoir d'exécution qui lui a été reconnu, qui lui est conféré par un règlement pour une directive. Si elle exerce ce pouvoir d'exécution, là, ce sont des actes qui ont l'autorité des règlements qui s'imposent pleinement et directement dans l'ordre juridique interne, mais sont tout de même mesures essentiellement de précision, qui ne sont pas vraiment des mesures d'édiction de normes de caractère général, qui viennent assurer la mise en œuvre des règlements et des directives, souvent eux-mêmes assez détaillés et assez précis, mais eux adoptés aujourd'hui par le Conseil et par le Parlement, la Commission pouvant prendre des mesures d'application. Et ça s'arrête quand même là. Je crois que vous avez fait allusion à un moment à la comitologie, là, au comité d'experts qui viennent éclairer la Commission. Ça, cela n'adopte pas de dispositions normatives contraignantes pour les États et supérieures aux lois. Mais c'est vrai qu'un règlement que la Commission a pris lorsqu'elle y est habilitée pour assurer l'application du droit dérivé, lui, il s'impose aux États membres.
Merci, Monsieur Collomb.
Je n'ai pas besoin d'ajouter mon sentiment aux compliments qui vous sont adressés. Ma question est sur la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a beaucoup de réactions, enfin il y a certaines réactions en Europe, notamment au Royaume-Uni, contre certaines décisions de la Cour européenne de Strasbourg,
qui finalement tire de principes assez généraux de la Déclaration des droits de l'homme des conséquences très opérationnelles et qui vont profondément dans le fonctionnement des sociétés européennes. Et qui fait tout cela au niveau d'un traité déjà ancien que l'opinion publique connaît mal, avec en plus une jurisprudence qui semble aller en sens unique, c'est-à-dire qui n'a pas beaucoup de retour en arrière, quelles que soient les circonstances. Au nom d'une organisation, le Conseil de l'Europe, que beaucoup pourraient considérer comme obsolète, et qui a vraiment aucune légitimité démocratique. Je sais bien qu'il y a une assemblée du Conseil de l'Europe, mais enfin personne ne la connaît, je ne sais d'ailleurs même pas comment, si je sais vaguement comment elle est désignée. Alors en tant que juge national, le juge national est bien entendu obligé de se plier à cette jurisprudence, mais il peut avoir une opinion sur l'adéquation de cette jurisprudence avec l'évolution des sociétés auxquelles elle s'applique et l'évolution des situations au cours des années qui se sont écoulées depuis la déclaration. Et c'est cette opinion que je voulais vous demander.
Oui, alors c'est certain que la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de Strasbourg, a une jurisprudence dynamique et volontariste dans l'application de la Convention. Alors, elle-même a dit que la Convention, c'était du droit vivant, qu'il fallait interpréter non seulement au regard de son texte, mais en tenant compte de l'évolution des modes de vie, des conceptions dans les pays du Conseil de l'Europe. Donc elle développe une jurisprudence tout à fait importante et qui peut aller assez loin. Je crois d'ailleurs que lorsque la France a ratifié la Convention, tardivement, en 1974, et reconnu en 1980 le droit de recours individuel, on n'imaginait pas les conséquences sur le droit national que la Convention interprétée et appliquée par la Cour allait avoir dans les différents pays. Alors, ceci étant, est-ce qu'il faut voir un petit peu l'inquiétude que je croyais avoir percé un petit peu dans votre question. Ça, tout de même, je n'en suis pas certain. Je dirais au moins pour deux raisons. D'abord, parce que je crois, alors là, aujourd'hui, peut-être plus que dans les années passées, la Cour de Strasbourg est attentive aux marges d'appréciation des États, à la liberté qu'il faut reconnaître aux différents États, et aussi au souci d'éviter les conflits avec les cours suprêmes nationales. Prendre quelques exemples non français. Il y aurait pu avoir un conflit très violent à propos du crucifix dans les écoles publiques italiennes. Le Conseil d'État italien, le Consiglio di Stato, estime, toujours applicable en Italie, une loi qui autorise la présence du crucifix dans les écoles publiques. L'affaire est portée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Dans un premier temps, une chambre estime que les principes de la Convention font obstacle à la présence du crucifix. L'Italie obtient le renvoi devant la Grande Chambre et la Grande Chambre, la Cour européenne des droits de l'homme, juge finalement que, compte tenu de l'horizon particulier qui est celui de l'Italie, il est possible de considérer que la loi italienne, dès lors qu'elle ne conduit pas à un embrigadement des enfants, est compatible avec les principes de la Convention. On pourrait trouver d'autres exemples, notamment avec l'accord de Karlsruhe sur la liberté de la presse et l'intimité de la vie privée. On en a en France. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a jugé tout à fait compatible avec la Convention, d'abord les règles sur les signes religieux à l'école, et puis plus encore la loi sur la dissimulation du visage dans l'espace public, là, je crois qu'on a pu voir que la Cour était même attentive aux préoccupations de laïcité telles qu'elles s'expriment dans la société française. Ce n'était pas des arrêts absolument évidents. Donc, je crois qu'il y a une prise en compte par la Cour, de plus en plus nettement, me semble-t-il, des réalités nationales, des marges d'appréciation. Puis, ma deuxième raison, peut-être une raison un peu optimiste, mais le dialogue des juges fonctionne bien avec la Cour européenne des droits de l'homme. Dans la juridiction administrative, nous l'avons particulièrement mesuré au cours des années récentes. Nous avions pu avoir des inquiétudes sur la double fonction consultative et juridictionnelle du Conseil d'État, sur le rôle propre devant la juridiction administrative du commissaire du gouvernement, devenu rapporteur public. Eh bien, finalement, des évolutions de nos règles, des arrêts successifs du Conseil d'État, de la Cour de Strasbourg, ont permis, sur ces sujets importants pour nous, du point de vue procédural, d'arriver à des équilibres tout à fait satisfaisants. L'affaire qui avait opposé l'accord de Karlsruhe à la Cour européenne des droits de l'homme sur l'équilibre intimité de la vie privée, liberté d'expression, s'est finalement réglée par ce que la Cour européenne des droits de l'homme a elle-même appelé une interaction entre juge national et juge européen. Donc je crois qu'il y a des marges de dialogue et, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que entrera bientôt en vigueur ce protocole 16 qui permettra aux cours suprêmes nationales d'interroger, parce que c'est vrai que le système actuel, il est un peu, par nature, générateur de conflits. Il faut épuiser les voies de recours internes avant de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, donc aller jusqu'à la Cour suprême, et après simplement dans la Cour de Strasbourg, ce qui, si elle prend une position contraire, peut paraître censurée d'une certaine manière, ou en tout cas contredire ce qu'a dit une Cour suprême nationale. Et la question préjudicielle, je crois, sera une bien meilleure manière de dialoguer en créant moins de tensions. Et je crois que il en va un peu de la Convention comme du droit de l'Union. C'est d'abord aux juges nationaux, même, d'appliquer la Convention. D'abord aux juges nationaux. Le recours à la Cour européenne des droits de l'homme ne doit être que l'exception. Il y a une subsidiarité et une première application par le juge national, bien sûr, à l'écoute de la jurisprudence européenne.
Si je puis me permettre d'ajouter un commentaire là-dessus. Je crois qu'effectivement, il y a une évolution de la Cour européenne des droits de l'homme récemment, qui prend un petit peu plus en compte les nécessités nationales et les marges d'appréciation, mais je dirais, a fait des progrès, peut encore mieux faire. En ce sens qu'elle le fait avec regret, n'est-ce pas? Quand on lit l'arrêt sur le crucifix en Italie ou l'arrêt sur le voile en France, on est frappé par le fait que dans les motifs, la Cour commence à dire tout ça, c'est pas bien du tout. Et puis ajoute, mais enfin quand même, finalement, ça marche quand même, n'est-ce pas? C'est à peu près ça le raisonnement dans les deux cas. Dans le cas du voile, on dit, ah oui, mais les sanctions sont pas très importantes, alors ça pourra aller. Dans le cas du crucifix, on dit, oui, bon, ben d'accord, voilà un petit peu ma réaction personnelle. Ça n'appelle pas de commentaire supplémentaire, mais ma réaction personnelle, c'est, je partage largement les sentiments du président Collomb. Je constate qu'il y a un progrès, probablement sous la pression justement des États comme la Grande-Bretagne, la Suisse, etc., qui ont protesté vivement contre l'impérialisme juridique de la Cour de Strasbourg. Et espérons que ces progrès continueront. Je passe maintenant la parole à M. Gaudemet.
Oui, je veux à mon tour saluer une nouvelle fois l'exceptionnelle clarté du président Bernard Stiern, je la connais depuis longtemps. Mais justement, je voudrais essayer cet exercice difficile parce que cette grande clarté a pour conséquence que tout paraît simple, tout paraît cohérent. Alors je n'irai pas jusqu'à l'exercice de psychologie auquel on nous a conviés tout à l'heure, mais je voudrais m'interroger avec vous sur une de vos affirmations, conclusions, qui est parfaitement conforme au droit positif, mais qui appelle peut-être une nuance, je vous en laisserai juge. L'absence de contrôle de conventionnalité des lois par le Conseil constitutionnel. C'est vrai, décision IVG, il l'a répété depuis la QPC. Mais est-ce que la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, pour le dire clairement, n'a pas été le véhicule, finalement, qui a ramené devant le Conseil constitutionnel un contrôle qui, matériellement, est quand même un contrôle par référence à la jurisprudence, notamment, de la Cour de Strasbourg. Et j'en voudrais pour argument complémentaire le fait qu'on ait jugé nécessaire, ce qui n'était pas dans la révision de 2008, mais dans la loi organique, de lui donner un caractère prioritaire. Prioritaire par rapport à quoi? Par rapport à un contrôle hypothétique de conventionnalité. Donc c'est bien que ce contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, par rapport à des normes substantielles qui sont quelquefois assez proches, dans le texte de la Convention et dans notre Constitution, c'est bien qu'on veut lui donner un caractère prioritaire. Donc, est-ce que le Conseil constitutionnel ne fait pas par ce biais finalement un contrôle de conventionnalité des lois, et notamment dans le cadre de la QPC. Ce qui justifierait que vous nuanciez peut-être votre conclusion, mais je sais que vous allez trouver le moyen de ne pas le faire, car vous êtes imparable dans votre clarté.
Bien, ben c'est une question que je suis particulièrement sensible, puisque c'est le professeur Godemet qui m'a fait découvrir le droit administratif il y a déjà quelques années. Je crois que c'est certain que sur le plan des normes de référence, on a une grande identité, les droits et libertés que la Constitution garantit, qui sont l'objet même des questions de constitutionnalité, ce sont les droits et libertés que le droit de l'Union ou le droit de la Convention garantissent très largement. Mais finalement, ce que je trouve quand même assez rassurant dans l'évolution, c'est que ce mécanisme de questions prioritaires de constitutionnalité, qui a commencé à apparaître dans les esprits dans les années 90. Déjà, le doyen Vedel avait commencé à lancer les premières pierres. Il y a eu beaucoup de difficultés à l'accepter, presque 20 ans, au fond, avant que la Constitution soit modifiée, notamment parce qu'on a chopé un peu sur ces questions-là, l'articulation entre les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité, a fini par s'imposer comme presque naturel. Dans un premier temps, quand il y a eu les premières proposition du doyen Vedel, il y avait un peu la réaction, dès lors qu'il y a le contrôle de conventionnalité, ce n'est pas la peine de créer un deuxième contrôle, les droits fondamentaux sont assurés grâce au contrôle de conventionnalité assuré par le juge administratif comme par le juge judiciaire, et ce n'est pas nécessaire d'aller en plus confronter les lois aux droits et libertés garantis par la Constitution, c'est au fond inutile. Et puis, le temps passant est apparu, alors là, on retrouve peut-être la schizophrénie, quand même, finalement, le paradoxe qu'il y avait à ce que les lois nationales puissent être sans cesse confrontées devant tous les juges, des premiers degrés jusqu'aux juridictions suprêmes, à tous les traités internationaux, et que là, un contrôle soit régulièrement exercé, conformité à l'ensemble du droit international, et qu'on ne puisse plus, une fois la loi publiée au journal officiel, discuter de sa conformité à la Constitution. Il y avait tout de même quelque chose de paradoxal, un paradoxe juridique qui se doublait d'un certain paradoxe politique. Dès lors que la Constitution est la norme suprême, est-il tout à fait satisfaisant que cette suprématie ne puisse pas s'exercer véritablement ? Et c'est ce qui a conduit à la révision de 2008, vont très largement acceptée et même revendiquée par le Parlement. Alors là, on aurait pu, je poursuis avec les métaphores du professeur Delvolvé, par là, une sorte de masochisme parlementaire. Le Parlement étant le premier à vouloir que les lois soient contrôlées, de plus en plus contrôlées, et à introduire un mécanisme vraiment très très efficace et assez contraignant de vérification de la conformité des lois aux droits et libertés garantis par la Constitution. Mais, au fond, il s'est agi de remettre de la cohérence juridique. La suprématie de la Constitution doit déboucher sur un contrôle, et c'est le contrôle du Conseil constitutionnel par le biais des questions prioritaires de constitutionnalité, et aussi un impératif plus politique au sens noble du terme, la valeur de la Constitution doit être pleinement reconnue et elle doit pouvoir s'exercer. Donc plus de paradoxe juridique, on contrôle les lois par rapport aux traités, mais pas par rapport à un homme supérieur qu'est la Constitution, plus de paradoxe politique, la suprématie de la Constitution à un juge pour qui est en mesure de la faire véritablement respecter. Et je crois que ainsi comprise, la mission qui est celle du Conseil constitutionnel a vraiment tout son sens et me paraît pas en conflit avec le contrôle de conventionnalité, même si c'est vrai, elle va un petit peu l'orienter. Il n'est pas impossible qu'une loi qui aurait été jugée conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution apparaisse problématique au regard de telle ou telle convention internationale. Enfin, c'est quand même à éviter, ou l'inverse, effectivement. Si on
commence par la Constitution, normalement, c'est d'abord la conformité à la Constitution qui devrait être reconnue, et après, le juge ordinaire pourrait s'interroger sur un problème conventionnel. Je crois qu'il sera quand même très attentif à la jurisprudence constitutionnelle, même s'il peut y avoir d'autres sujets, parce que les questions conventionnelles ne se limitent pas quand même aux droits et libertés. Il y aura d'autres sujets conventionnels que les sujets de droits et libertés. En tout cas, on a maintenant quand même quelques années d'expérience depuis 2010, l'entrée en vigueur effective de la QPC. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on ait vu de tension entre les deux contrôles dans les 6 années précédentes.
Je vous remercie. Monsieur Corsia.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour vos exposés qui a même rendu compréhensible ces questions très sensibles, très pointues à des néophytes comme votre serviteur. J'ai le sentiment que malgré tout, ça a toujours été la construction normale du droit, une opposition de deux droits, de deux vérités. C'est mon droit contre le vôtre. Donc, que ce soit maintenant le juge français contre le droit international, n'est pas nouveau dans l'opposition. On a toujours opposé, par exemple, la loi des hommes à la loi de Dieu, la loi des hommes à la loi naturelle. Lorsque le Talmud dit que le maître Hillel et le maître Shammai n'ont absolument jamais les mêmes opinions, mais qu'il y a une voix du ciel qui sort et qui affirme que la parole de l'un et la parole de l'autre sont les paroles du Dieu vivant. Et je pourrais citer la concurrence, ce qui fera plaisir à mon éminent voisin, lorsque les évangiles parlent de le Shabbat qui est fait pour les hommes et non pas les hommes pour le Shabbat, on se trouve aussi dans une opposition. Quel type de loi domine l'autre? Mais en tout cas, on est dans un dialogue des lois. Et j'aime l'image que vous avez donnée à la fin, celle d'un mobile de Calder, opposé aux pyramides. Vous noterez que dans les années 20, les Égyptiens ont détourné le Nil des pyramides comme si le flux de la vie, de l'eau, était dangereux pour ce monument de loi. C'est-à-dire que parfois la loi est tellement belle qu'il faut l'éloigner de la réalité de la vie. Alors que le mobile, comme son nom l'indique, est mobile, c'est-à-dire qu'il est mouvant. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas une grandeur d'être capable de trouver un équilibre? Parce que qui dit mobile dit mouvement, et donc dit équilibre entre des tensions qui sont une forme de tension éthique entre des aspirations et la capacité du droit français à répondre aux interrogations du droit international. En gros, est-ce qu'on ne pourrait pas voir plutôt une grande chance du droit? Parce que vous avez deux façons de considérer que le droit est parfait. Soit personne ne le met en question, personne ne le discute, et donc il est indiscutable. Soit on le contredit et on arrive à trouver une ligne de crête entre sa rencontre, entre des vérités différentes qui permet aux hommes de vivre ensemble, donc d'être dans un mouvement.
Oui, ce sont des belles perspectives, monsieur le grand rabbin, que vous ouvrez. En tout cas, je vous rejoins vraiment sans hésitation sur l'optimisme. Ça, je crois que le mouvement, les évolutions que nous connaissons dans nos systèmes juridiques, qui sont quand même très, très grandes, on est dans un moment un peu de recomposition des systèmes juridiques, m'appelle de ma part beaucoup moins d'inquiétude que d'optimisme. Et je crois que vous avez bien sûr raison de le situer dans des perspectives beaucoup plus larges, d'un point de vue historique et d'un point de vue philosophique, et de dire qu'effectivement ces phénomènes d'articulation que nous rencontrons sont peut-être l'écho aujourd'hui de problématiques beaucoup plus permanentes et plus fondamentales. Ça, je le crois volontiers. Il y a toujours eu d'ailleurs une certaine part dans notre droit réputé droit écrit de principes supérieurs qui viennent, je ne sais pas si c'est des dieux ou de la longue histoire ou de la conscience humaine, mais je crois que notre droit a toujours reconnu, et ce que en droit administratif nous traduisons par les principes généraux du droit, c'est un petit peu cela, des vérités permanentes qui vont bien au-delà du droit écrit. Il y a plusieurs lois qui s'affrontent, qui se combinent, qui se complètent. Et je crois que c'est dur de dire aujourd'hui si l'une l'emporte sur l'autre. Je crois que c'est du mal à raisonner dans ces termes-là. Il y a quand même une part qui n'est pas négligeable, qui reste importante pour le droit national. Le droit national n'a pas disparu. Le droit national continue d'occuper sur beaucoup de sujets des places importantes, mais il ignore de moins en moins, et le juge national ignore de moins en moins la dimension internationale. Et je crois que ça ouvre plutôt des perspectives d'harmonie au total.
Je vous remercie. Bien, mais écoutez... excusez-moi, monsieur Bechler.
Vous autorisez une question d'illettré qui prolonge un peu la question...
Ce sont les plus intéressants.
La question talmudique de monsieur le rabbin. Je partirai du mobile de Calder, qui me paraît une image merveilleuse. Il autorise deux interprétations très différentes. Première interprétation, le mobile est ainsi construit que les éléments mouvants qui le constituent résultent en équilibre changeant de l'ensemble. C'est un peu ce que vous avez dit. Il y a une deuxième interprétation qui dit non, cet équilibre n'est possible que s'il y a des forces extérieures au système qui s'exercent, qui peuvent être par exemple la gravité ou le fait que le mobile soit implanté dans le sol. Alors si on transpose cette image au droit, vous avez première possibilité, la pluralité ordonnée, c'est la pluralité qui met, comment dire, spontanément produit de l'ordre. Mais il y a une deuxième interprétation qui introduit des forces extérieures, autrement dit ce que les physiciens appelleraient un attracteur, qui permettent à l'ordre de se faire jour à travers le chaos éventuel de la pluralité. Et je vois deux attracteurs possibles, le droit naturel, pour reprendre l'expression traditionnelle, ou bien, et ce n'est pas contradictoire, un certain type de régime politique, que l'on appelle couramment l'état de droit, et qui, impose, force le système du droit à se laisser conduire vers l'ordre à travers la pluralité. Enfin, est-ce que j'ai été assez clair comme il est très... J'y connais rien à votre affaire. Vraiment.
Comment aller du désordre à l'ordre ?
Tout à fait clair, et je crois que c'était très, très, très passionnant comme perspective aussi, mais je crois que oui, ce n'est pas uniquement le traité de Lisbonne, la Convention européenne des droits de l'homme qui se combine tout seul. Ça, je crois que derrière, effectivement, il y a une certaine conception de la démocratie, et il y a sans doute des leviers ou des supports extérieurs qui permettent que le système tienne. Et ça, je crois que, peut-être pas avant votre question, M. le Président, complètement réfléchi à ces aspects-là, mais l'idée que, effectivement, derrière les textes juridiques, il y a des éléments plus forts qui retrouvent effectivement le droit naturel, les principes, les principes essentiels. Système juridique peut difficilement, je crois, tenir sans ces soubassements.
Je vous remercie. Ceci dans l'île, il ne faut pas confondre droit naturel et droit international. Hein. Je veux dire que le droit international, comme vous l'avez dit, a la notion de normes impératives jusqu'aux ce qui s'imposent aux États, mais la Cour internationale de justice, pour l'instant, n'en l'a reconnu que dans un seul cas, le génocide. Il n'y en a pas d'autre. Alors, par contre, la doctrine et les autres juridictions ont beaucoup brodé là-dessus. C'est là qu'on voit les intersections entre droit naturel et principes généraux qui, si je puis conclure là-dessus, donnent en réalité un pouvoir nouveau aux juges. Et tout ce que vous nous avez dit montre que le droit international a été un moyen pour le juge national d'accroître son pouvoir. Ceci étant dit, je crois que nous avons eu un exposé merveilleux, une discussion intéressante. Je vous en remercie très vivement et la séance est levée.